Commission Gravel-Fontaine avec Hélène et Isabelle. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bon matin.
On a quelques suggestions intéressantes ce matin. Allons-y donc. On va commencer avec la question Facebook. Tiens, on va y aller avec le pont d'abord pour commencer. Le pont des Grandes Fourches, vous savez que ce sera un pont signature. On avait vu le design là, il y a de ça déjà plusieurs mois. Et là, hier, on se posait la question au conseil municipal. Il y a eu deux intervenants différents qui sont débarqués. Un pour proposer un nom masculin. Jean Perrault, il est allé de sa suggestion. Il dit, il me semble que Richard Royer, ce serait une bonne idée comme nom pour ce pont-là. Et Joanie Martin-Gay, qui était du groupe, l'organisme Les Pépines, qui dit on devrait choisir un nom Abénaki et une femme Abénakise. Alors, Hélène, tiens, pour commencer là-dessus.
Ben, en fait, au départ, là, moi, je suis tout à fait d'accord pour que ça soit le nom d'une femme. On l'a dit l'autre jour, le nom, tu sais, on disait que le comité de toponymie n'avait pas été très généreux en ce qui concernait le nom de femme pour les rues à Sherbrooke. Mm-hmm. On sait qu'un pont, ça parle plus, et évidemment, au sens figuré, mais ça marque plus les esprits que n'importe quelle autre rue, à moins que ça soit une grande artère. Alors, manifestement, pour moi, je pense que c'est le temps de se rattraper. Puis oui, le nom d'une femme, qu'elle soit Abénaki ou autre, mais une femme qui aura marqué notre histoire, et Dieu sait que ce n'est pas le nombre de femmes qui ont marqué notre histoire qui manque.
Donc, si je t'entends bien, Hélène, pour toi, c'est plus important le sexe que l'origine dans le cas du pont.
Je pense qu'on est capable de faire les deux.
Okay.
Mais il faudra avoir une sensibilité accrue pour décider mm-hmm. de nommer le pont du nom d'une femme.
Isabelle?
On en avait eu un débat à ce sujet-là cet automne, à la fin du mois d'octobre, parce que le comité de toponymie est arrivé avec une proposition de nom où il n'y avait que des hommes, et encore une fois, c'était revenu sur la table. Et le président du comité de toponymie à l'époque, Paul Jung, avait dit qu'il ferait un effort pour amener plus de suggestions de noms féminins. Je pense que dans ce cas-ci, la proposition des Pépines est intéressante. Moi, je trouve que l'idée que ce soit une femme d'origine Abénaki est encore plus intéressante parce que ça fait une certaine cohérence avec le pont qui est situé au confluent des rivières Magog et Saint-François qui rappelle la présence historique des Abénaki à cet endroit-là et aussi le pont qui a des allures dont le design rappelle ce moment historique-là et que le nom soit cohérent avec tout ça, ça fait beaucoup de sens. On trouvera probablement une autre façon d'honorer la mémoire de M. Royer dans un autre contexte, mais je pense qu'ici, notre comité de toponymie doit avoir cette sensibilité historique, mais aussi nous illustrer clairement qu'après ce qui s'est passé cet automne, il y a cette intention réelle de combler le fossé entre le rappel historique de la présence des hommes et le rappel historique des femmes à Sherbrooke.
Et sur les sexes, là, je le rappelle ce matin, sur 127 ponts répertoriés en Estrie, il y en a deux qui sont féminins.
Il y en a 1% à travers le Québec.
Oui,
c'est
mais
fou, là.
J'imagine, même dans la région, on est pas mal là-dedans quand même. On est à peine au-dessus du 1%, là, mais il y en a deux sur 127.
Tu sais, je pense que
absolument,
la question...
Même à Sherbrooke, il n'y a que 12% des noms... Parmi tous les noms de rue qui portent des noms de personnages, il n'y en a que 12% qui portent des noms de femmes. Donc, il y a vraiment un effort à faire.
Mais on ne vise pas la parité non plus. Là. Par
non,
contre,
mais on est loin de la zone paritaire.
Exact. Mais c'est important de rappeler que tu sais, du 50-50, pour l'instant, c'est bien plate à dire, mais c'est pas possible. Le passé ne le permet pas.
C'est ça, mais... Absolument, parce qu'on passait sous silence la peur des femmes dans le passé. C'est comme si les femmes n'existaient pas, étaient confinées au foyer, alors qu'il y a des femmes qui ont fait de grandes choses.
Mais on a de la place, là.
On a beaucoup de place.
Faisons un peu, là, on trouvera aussi des conseillères municipales à honorer et d'autres personnages qui ont contribué même dans l'administration publique.
Je fais juste rappeler qu'il y a un piège. Il ne faut pas tomber dans l'histoire de ça prend 50-50.
Non, on n'y arrivera pas. Absolument pas. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais là, ça fait longtemps qu'on n'a pas rendu aux femmes ce qui appartient aux femmes, et ce serait le bon moment. Puis juste pour revenir sur la proposition de M. Perrault, quand il a parlé de Richard Royer, c'est un homme que j'ai beaucoup apprécié et qui a fait beaucoup, notamment au niveau de l'innovation. Puis je me disais, sur Well-Sud, là, il va y avoir la maison de l'innovation. Ça pourrait effectivement être intéressant de nommer cette maison-là du nom de Richard Royer.
Belle suggestion.
Ça ferait une
cohérence. Et probablement plus cohérent.
Oui, tout à fait.
Ah oui, bon point. On revient également sur le décès de la mère de Gilles Duceppe. C'est triste que ça prenne parfois des cas public, des cas plus connus pour attirer l'attention sur des problématiques qui sont quand même récurrentes, même si rares. On rappelle que sa maman, 93 ans, a été retrouvée morte, gelée à l'extérieur de sa résidence pour aînés de Montréal après être sortie pour une alerte incendie où on disait aux gens de demeurer à l'intérieur, mais l'entend mal. Mm-hmm. Alors, on se retrouve à l'extérieur et est emborré là. Et finalement, selon ce qui est
quelle
sorti
atrocité.
Pour l'instant, elle serait demeurée gelée à sa porte, là, tu sais, vraiment à quelques pieds seulement. De sa porte d'entrée. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos aînés? Est-ce qu'on les traite bien? Qu'est-ce qu'on fait avec nos CHSLD? Où on s'en va avec ça?
En fait, je trouve quand même que... D'abord, je pense qu'on va offrir toutes nos condoléances.
Bien sûr.
On en parle, là, le gouvernement Legault, une des premières promesses électorales qu'il a faites, c'est de changer un peu les CHSLD pour en faire des maisons des aînés. Et là, on vient d'annoncer qu'il y aura effectivement la création de la première maison des aînés. Et pour moi, ça soulevait à l'époque, puis ça soulève toujours des questions, c'est que ça va coûter excessivement cher de refaire ça. Je suis d'accord sur le fond parce que les CHSLD, c'est froid, c'est très institutionnel. Je pense que les aînés méritent d'avoir un milieu de vie plus chaleureux et aussi, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. C'est-à-dire, on va arrêter de les mettre, de les parquer loin de où tout se passe. Et dans ce cas-ci, il y a une sensibilité. Par contre, comme ça coûte excessivement cher et que la vraie problématique, c'est la pénurie de main-d'œuvre, on le sait. C'est beau d'avoir des beaux espaces, mais si on n'a personne pour s'occuper de nos aînés, on ne va pas loin. Alors, pourquoi ne pas travailler davantage avec le patrimoine bâti, notamment le patrimoine bâti privé? Parce que l'association des propriétaires de centres d'hébergement privés conventionnés ont dit, ben pourquoi au lieu de reconstruire, on ne travaille pas ensemble à donner, par exemple, des subventions aux aînés qui n'ont peut-être pas les moyens de se retrouver dans certains centres d'hébergement? Ça coûterait beaucoup moins cher, mais en même temps, que le gouvernement investisse davantage dans les gens plutôt que dans le béton.
Mm-hmm.
Moi, j'apporterais des nuances à ce que Hélène dit. Je pense que il y a plusieurs situations dans les dernières années qui nous ont prouvé que oui, le privé peut-être avait une place, mais que ça nécessitait un encadrement important qui requiert aussi des coûts et que le privé va toujours avoir tendance à préférer les cas plus légers et à laisser de côté les cas plus lourds.
L'action
publique va toujours être nécessaire, à mon avis. Et dans le cas qui nous occupe ici, la maison qui a été annoncée à Sainte-Élisabeth, dans le fond, c'est un CHSLD qui est dans un ancien couvent qui, visiblement, ne répond plus aux normes. Il y a 2 étages sur 4 qui ne seraient plus occupés. On réinvestit 15 millions de dollars pour transformer ce CHSLD en nouveau concept de maison de soins de longue durée qui serait plus humain, bon, qui aurait tant plus à être un milieu de vie. Je pense que le rôle du public ici est encore important. Je pense que l'idée qu'on modernise le concept de centre hospitalier de soins de longue durée est bienvenue. Et à mon sens, l'un n'exclut pas l'autre. Et ça prend des investissements dans les personnes, dans les soins à domicile, mais ça prend aussi des investissements et une relecture, une révision, une modernisation de notre réseau hospitalier de soins de longue durée. Et je suis contente de voir qu'effectivement, le gouvernement Legault semble faire les deux. Il a promis d'investir 1 milliard dans son concept de maison des aînés. Si effectivement, ça se traduit par la modernisation d'établissements existants, comme c'est le cas ici, je vois pas pourquoi on s'en priverait.
Mais moi, je suis pas d'accord avec une portion de ce qu'Isabelle vient de dire, notamment sur le fait que dans le privé, on préfère les cas plus légers. C'est pas que les gens préfèrent les cas plus légers, c'est simplement que chacun avait leur mission, c'est-à-dire les CHSLD, les cas plus lourds puis les cas de fin de vie, et les centres d'hébergement privés pour les gens qui décidaient de quitter leur foyer pour aller dans un autre contexte. Est-ce qu'on peut pas travailler ensemble? C'est un peu ce que je dis, pas de tasser le public. Au contraire, je pense que les deux peuvent très bien travailler, mais pourquoi pas utiliser ce qui est déjà existant et en ce qui concerne l'infrastructure très à la fine pointe,
mm-hmm.
et ne pas offrir des soins peut-être plus spécialisés qui ressemblaient davantage à ce qui est donné actuellement dans les CHSLD, mais à l'intérieur d'un patrimoine bâti, plutôt que d'investir encore une fois dans les infrastructures béton, plutôt que de dire, ben, on va mettre le paquet sur la qualité, par exemple, des services et travailler ensemble pour utiliser ce qui est déjà là.
Moi, ce qui me préoccupe, c'est à très court terme, on fait quoi avec nos aînés en CHSLD? Est-ce qu'on va régler le problème dans 10, 15, 20 ans? Est-ce qu'il faut attendre 10 ans pour l'améliorer ou on est capable d'avoir une action maintenant?
Ben, en fait, là, c'est sûr qu'actuellement, de rendre les lieux plus chaleureux, je pense que ça peut se faire à moindre coût. Deuxièmement, on le sait, là, dans les CHSLD, la problématique est nettement plus au niveau des services puis du nombre de personnes qui est là pour offrir des services. Si on se compare un peu à ce qui se fait ailleurs, mm-hmm. il y a beaucoup plus de robotisation, et vous me direz, c'est pas humain, mais en même temps, le service se rend, notamment au niveau des services de bain. Tu sais, on a parlé beaucoup là, du coût de chaque bain, puis du fait qu'il y avait plusieurs aînés mm-hmm. qui n'avaient même pas un bain par semaine. Alors, c'est tout revoir la procédure de la gestion du travail.
Et tu dis, Steve, qu'est-ce qu'on fait déjà pour améliorer les services? On a parlé au début du mois de ces bénévoles qui étaient maintenant formés pour améliorer les services en CHSLD. Je pense que ça aussi, c'est une piste de
très,
solution
très bonne
intéressante.
Idée. Il y en a très peu, malheureusement.
Oui, exact. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. On se retrouve demain, au plaisir.
Et moi, je quitte.
À demain.
Pour deux semaines.
C'est vrai. Bonnes vacances, Hélène.
Merci.
Je te retrouverai,
bonne
Isabelle.
Hein?
Merci,
demain,
Isabelle. Steve. Bye-bye.
Les vrais demeurent au Québec. Ceux qui sont capables d'affronter le froid.
Quel euphémisme.
Bonnes vacances, Hélène.
Bye-bye.